L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 15h15, un jour de printemps 2021 à Nanterre. Un homme vêtu d'une chemise blanche et de baskets s'avance péniblement vers un bâtiment moderne, sans âme, où seul l'écriteau en façade indique « Ministère de l'Intérieur ». C'est le seul signe distinctif qui le démarque des autres immeubles de la rue. L'homme est lourdement chargé. Il porte trois gros sacs. À l'extérieur, les passants ne prêtent pas attention à cet homme. Personne ne le connaît ou personne ne le reconnaît. À Paris, pourtant, certains milieux ne parlent que de lui depuis quelques mois. Il est au centre d'une affaire dont tous les journaux ont fait leur titre. Ancien journaliste de l'hebdomadaire de gauche Libération, il se retrouve aujourd'hui au cœur d'une affaire extraordinaire. Dans les hautes sphères parisiennes, certains le félicitent et d'autres n'hésitent pas à le traiter d'escroc. Et c'est d'ailleurs à ce titre qu'il est convoqué en ce début de mois de mars 2021 au ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, il pourra enfin s'expliquer. Ce 18 mars à Nanterre, il est 15h15, c'est l'heure H de mon histoire. Mais que peut bien transporter l'homme dont je vous parle? Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que ces sacs cachent un véritable trésor. Un trésor évalué à plusieurs millions d'euros. Des lingots d'or? Non. Alors de l'argent? Non plus. Une œuvre inestimable qui bouleverse encore aujourd'hui le monde judiciaire et littéraire. Dans toute l'histoire de la littérature, il n'existe pas de cas similaire à cette incroyable découverte. Ces sacs contiennent des documents recherchés depuis plus de 80 ans. On ne savait pas s'ils existaient vraiment, mais certains avaient des doutes et enquêtaient depuis des décennies, sans succès jusque-là. Notre homme qui monte les marches du ministère de l'Intérieur en ce mois de mars 2020, c'est Jean-Pierre Thibaudat. Il transporte les 6000 feuillets d'une œuvre littéraire inédite d'un écrivain mondialement connu. Près d'un mètre cube de papier qu'il s'apprête à déposer sur une table de l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels. Oh, il ne vient pas volontairement, non, il est convoqué par la justice. Les ayants droit de l'œuvre qu'il transporte dans ses bagages l'ont assigné pour recel de vol. Le recel de vol désigne le fait de détenir, de cacher, de transmettre ou d'acheter un bien que l'on sait issu d'un vol. Les sanctions pénales en cas de recel de vol peuvent être très lourdes. Car cette œuvre, il la possède depuis plus de 15 ans. Mais il n'a révélé la détenir que depuis quelques mois à peine. Il doit donc s'expliquer. Bonjour Monsieur Thibaudat, merci d'être venu suite à notre convocation. Est-ce que vous pourriez déposer vos sacs sur la table? Le fonctionnaire qui demande à notre homme de déposer ses sacs sur la table sait que ce qu'il va découvrir à cet instant fera l'effet d'une bombe médiatique dans les prochaines heures. Thibaudat craint qu'on ne détériore les documents si précieux qu'il garde depuis si longtemps. Messieurs, ces documents ont plus de 80 ans, alors je vous demande de les manipuler avec le plus grand soin. On me les a confiés il y a 15 ans et je ne voudrais pas qu'ils soient détériorés. Cette mise en garde n'était pas nécessaire. À l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, on a l'habitude de traiter avec respect les œuvres et les documents qui y transitent. Et ils savent que ce qu'on leur apporte aujourd'hui est semblable à un trésor. À peine déballé, pour les experts, il n'y a pas de doute. Ces feuillets sont bel et bien de vrais écrits appartenant à Louis-Ferdinand Céline. un des plus grands auteurs de la littérature française et considéré pour certains comme un des plus grands auteurs français du XXe siècle. Regardez, c'est exceptionnel. Vous voyez, sur chaque feuillet, il y a une trace de pince à linge, là. Et là encore. Oui, ce sont sans aucun doute de véritables manuscrits de Céline. Oh, quelle émotion de les tenir dans les mains. Oui, ces traces de pince à linge présentes sur chaque feuillet sont la conséquence de la technique de séchage de Céline qui, une fois son papier écrit, le faisait pendre sur une corde pour le faire sécher. Céline, l'auteur du Voyage au bout de la nuit, disait donc la vérité. Depuis les années 50, il clamait qu'on lui avait dérobé une grande partie de son œuvre pendant l'été 44. On l'entendait souvent en interview s'énerver et reprendre toujours la même rengaine. « Des salopards ont vidé mon appartement pendant mes vacances. Ils ont volé tout ce qu'ils ont pu, fracassé ce qui était trop lourd et brûlé mes manuscrits aux poubelles. C'est une partie immense de mon œuvre qui a disparu. Ils m'ont rien laissé, pas un mouchoir, pas une chaise, pas un manuscrit. » On le croyait paranoïaque, mais c'était donc vrai. Enfin vrai. Oui, en effet, son œuvre a été dérobée. Mais en ce qui concerne son départ de France pour partir en vacances, ça c'est une autre histoire. Des vacances. Il faut plutôt parler d'une fuite obligée pour sauver sa peau. Mais bon, j'y reviendrai, si vous le voulez bien. Depuis les plaintes de Céline concernant le pillage de sa maison de Montmartre, quittée à la hâte, les Céliniens du monde entier cherchent ses manuscrits sans relâche. Mais comment imaginer le parcours rocambolesque de ces feuillets de 1944 à nos jours ? Alors, beaucoup d'hypothèses ont été proposées, mais jamais personne n'avait pensé à un tel scénario. Jamais personne n'avait osé penser les retrouver en si bon état, et puis surtout, jamais personne n'avait imaginé en retrouver autant d'écrits et de feuillets représentant une aussi grande œuvre de l'écrivain. Ces feuillets semblent avoir été écrits entre 1932 et 1936 et constituent un manuscrit incomplet. Un ensemble important de chapitres d'un ouvrage intitulé « Guerre » et des séquences inédites de Casse-pipe. Il y aurait également des chapitres qui semblent avoir été retirés de certaines œuvres déjà publiées. Pour l'anecdote, certains experts indiquent que si des chapitres sont manquants dans certaines œuvres publiées, ce serait à la demande de l'éditeur de l'époque. En effet, dans les années 30, l'impression d'un livre coûtait extrêmement cher. Pour preuve, dans la version originale de Voyage au bout de la nuit, on a rogné sur les marges pour limiter le nombre de pages à imprimer. Il semblerait donc qu'à la vue du manuscrit original de Céline, l'éditeur lui aurait demandé de supprimer certains chapitres pour limiter le coût de l'impression des 5000 premiers exemplaires. Revenons à notre récit. Comment cette œuvre a-t-elle pu disparaître, se retrouver pas loin d'un siècle plus tard entre les mains du journaliste Jean-Pierre Thibaudat, puis aujourd'hui sur une table de l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels? Comment ces manuscrits ont-ils pu disparaître depuis si longtemps? Par quel miracle ces textes ont-ils été retrouvés intacts? Et pourquoi? Pourquoi ressurgissent-ils maintenant? Le hasard? Non, non, au contraire. Rien n'est dû au hasard dans cette incroyable histoire. Ni le fait que les manuscrits aient disparu, ni le fait qu'ils refassent surface en 2021.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'incroyable histoire des manuscrits retrouvés dans des plus grands auteurs du XXe siècle, Louis-Ferdinand Céline. 6000 feuillets de cet auteur réapparaissent ce 18 mars à Nanterre. L'événement est tellement fantastique et inédit pour un auteur de cette envergure que l'ensemble des médias en France en parle. Le Monde, Libération, Ouest-France, France Télévisions, TF1 consacrent leur une et des émissions entières afin de décrypter cette mystérieuse apparition. Cette affaire est une bombe médiatique et littéraire. Pour comprendre les raisons de cette disparition et de cette réapparition mystérieuse, il faut faire un bond de 80 ans en arrière, replonger dans la vie de Céline. Louis-Ferdinand Céline est né le 27 mai 1894 à Courbevoie, à l'ouest de Paris, sur la rive gauche de la Seine. Fils de commerçant, il grandit à Paris. Étonnamment, malgré ce qu'on retiendra plus tard de sa personnalité médiatique durant son enfance, c'est un garçon sage et obéissant. La Première Guerre mondiale éclate lorsqu'il a 20 ans. Il est mobilisé et envoyé aussitôt pour combattre en première ligne. Grièvement blessé, il sera démobilisé dès 1915. Beaucoup diront que l'expérience de la guerre et ses blessures modifieront profondément sa personnalité. C'est en tout cas un point de bascule pour Céline. Il devient revanchard, hargneux, taciturne. Il utilisera ses souvenirs d'enfance dans « Mort à crédit » et ses souvenirs d'incorporation dans « Voyage au bout de la nuit » ou encore dans « Casse-pipe ». Il effectuera ensuite différents séjours à Londres, à Genève et aux États-Unis. J'en arrive directement à une date clé pour notre auteur, 1932. En effet, en 1932, il publie le roman qui le rendra mondialement célèbre, « Voyage au bout de la nuit », pour lequel il recevra le prix Renaudot, manquant de deux voix, le prix Goncourt tant convoité par les auteurs. Auréolé, « Voyage au bout de la nuit » aura un retentissement exceptionnel, mais divisera aussi les critiques. Les prises de position de Céline suscite de nombreuses polémiques. Et c'est sans aucun doute sa personnalité qui expliquera la disparition pendant près de 80 ans d'une grande partie de son œuvre. Écoutez plutôt. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Céline est un écrivain célèbre. Mais il est également devenu l'auteur de pamphlets anti-juifs comme « Bagatelle pour un massacre » et « L'école des cadavres ». Antisémite notoire, il fréquente les hauts dignitaires nazis et il semble qu'il ne se soit pas contenté d'écrire des pamphlets nauséabonds sur les Juifs. Il va plus loin, beaucoup plus loin. Il n'hésite pas à dénoncer et donner des renseignements aux Allemands. Certains diront même qu'il était un agent de la Gestapo. En 1944, lorsque les Allemands sont sur le point de perdre la guerre, la situation va se détériorer pour Céline et sa femme. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. La population parisienne, comme bon nombre d'Allemands, savent que Paris sera bientôt libéré. En attendant, dans la capitale française, c'est un peu le chaos. Les Allemands se préparent à s'enfuir et les résistants de la première heure commencent à régler leurs comptes aux collabos. Pour Louis-Ferdinand Céline, le vent tourne. Ses amis allemands ne pourront plus le protéger. Chaque jour, il reçoit dans sa boîte aux lettres de petits cercueils, laissant présager du sort qu'il subira dès la libération. Et il comprend qu'il est temps de s'enfuir. Dans l'appartement parisien de Montmartre, le 17 juin 1944, Céline et sa femme, Lucette, prennent leur dernier dîner. Et leur décision est prise. Il faut quitter Paris quelque temps. Je pense qu'il est temps de quitter ce chaos. Et puis ne pleure pas, je te promets que nous reviendrons vite, je te le promets vraiment. Bon, considérons que nous prenons un peu de vacances. Et puis, ne prends pas trop de bagages. Nous récupérerons notre appartement et nos affaires à notre retour dès que la situation sera calmée. Céline et sa femme quittent donc Paris en train, s'arrêtent d'abord à Baden-Baden et s'exilent ensuite au Danemark. Persuadés de revenir rapidement, ils ne prennent que l'essentiel. Le chat, une valise et un peu d'or. Il laisse un appartement meublé et surtout, Céline laisse ses écrits, ses feuillets disséminés un peu partout. Bien oui, il a dû faire un choix, et un choix sans doute difficile. Il ne pouvait pas tout prendre. Il abandonne donc ses manuscrits. Peu de temps après leur fuite, à Paris, le général de Gaulle remonte triomphalement les Champs-Élysées. Les Français l'accueillent avec démonstration de joie et font un triomphe aux soldats alliés. Les filles se jettent sur les soldats français, suivis de près par des soldats américains. La population les embrasse et crie sa joie d'être enfin libérée après 5 ans d'horreur. Parce que oui, Paris est libéré, la guerre est finie. Elle a fait 50 millions de morts. Une véritable boucherie. 30 ans seulement après la précédente, il est temps de tourner la page et de vivre une nouvelle ère. Mais tourner la page, tout le monde n'est pas prêt à le faire. Les rancunes sont immenses. Le besoin de vengeance, très présent. La chasse aux collabos est lancée. Dans les rues de Paris, on rase les femmes, ayant eu une relation avec des Allemands, et les passages à tabac de pseudo ou vrais collabos sont menées courantes. Loin de la capitale, Céline est à l'abri. Dans ce climat, ses propos antisémites et son comportement, pour le moins amical, avec les Allemands durant la guerre, ne lui auraient pas permis de vivre sereinement cette libération. Pire encore, comme Brassilac, journaliste et écrivain célèbre du début du XXe siècle, il aurait pu être arrêté, emprisonné à Fresnes, condamné à mort et fusillé pour « intelligence avec l'ennemi ». La justice, à la sortie de la guerre, ne faisait pas de cadeaux. Face à une telle situation, Céline a donc eu raison de partir en vacances avant la libération. Il était évidemment conscient, malgré ce qu'il prétend, qu'il ne partait pas en vacances d'été, mais qu'il s'enfuyait pour ne pas subir le même sort que Brasillac. Il avait dû choisir entre l'or, le chat et les manuscrits. Et son choix a sans doute été vite fait, vu le nombre de notes qu'il aurait dû emporter. Il n'est pas commode de voyager en plus de ses bagages avec d'énormes sacs remplis de feuilles de papier. Et puis, il était sûr de revenir vite. C'était soi-disant des « vacances ». En réalité, il ne reviendra à Paris que 7 ans plus tard. Durant cet exil, il ne s'est sans doute pas imaginé que l'ordonnance du gouvernement français du 26 juin 1944, permettant l'épuration des collabos, aurait des répercussions sur son appartement, son mobilier et peut-être son œuvre. Dans ce Paris d'après-guerre, fort de cette validation par le gouvernement français de la chasse aux collabos, de nombreux Parisiens se permettent de visiter les appartements de ces Français qui avaient été un peu trop proches des Allemands. Surtout s'ils sont célèbres. Aux anciens résistants s'ajoutent donc des malfrats et voleurs en tout genre. L'appartement de Céline ne fait pas exception. À propos des feuillets de Céline, un premier scénario est envisagé lors de leur découverte au printemps 2021. Il ne fait pas l'unanimité. Et c'est donc une hypothèse, la voici. Céline et Lucette habitent un appartement de Montmartre. Le succès de Voyage au bout de la nuit leur a permis de bien se loger. Ils occupent donc un bel appartement au 5e étage d'un immeuble cossu de l'avenue Girardon. Au rez-de-chaussée, comme souvent dans les appartements de ce standing de l'époque, vit une concierge. La concierge, étonnamment, ne remarque pas qu'un soi-disant ancien résistant monte et accède à l'appartement de Céline. Cet homme, connu de Céline dans les années 50 sous le nom de Rosenbly, est un juif corse fiché comme voleur par la police de l'époque. Il fera d'ailleurs de la prison à Fresnes pour d'autres vols commis durant la même période. Toujours est-il qu'en visitant l'appartement, il vole une partie du contenu de celui-ci, mais aussi les masses de feuillets entreposées dans le bureau de Céline. On imagine bien qu'il ne devait pas être seul ce jour-là pour déménager le contenu d'un appartement sans que la concierge ne s'en aperçoive. Que la concierge ne s'en rende pas compte, vous en conviendrez, c'est tout de même étrange. Et puis, quel serait son intérêt à voler des feuillets? C'est encombrant, inutile, et qu'aurait-il pu en faire? Et pourquoi les aurait-il gardés 80 ans sans essayer de les vendre? Vous l'aurez compris, cette hypothèse, que soutenait d'ailleurs Céline, ne tient pas la route. Elle fera d'ailleurs long feu. Dans cette histoire, comme je vous le disais, rien n'est le fait du hasard. Et si on retrouve les manuscrits intacts 80 ans après leur vol, ce n'est pas pour rien. Ah oui, pourquoi apparaissent-ils seulement à l'été 2021? Pourquoi les avoir cachés pendant aussi longtemps? J'imagine que vous échafaudez aussi les hypothèses. Vous vous dites que les feuillets étaient perdus et que quelqu'un, par hasard, en rachetant une maison, les a retrouvés dans un grenier sous une masse de poussière et qu'il se les transmettait de génération en génération. Ou que les personnes en possession de ce trésor ne réalisaient pas la valeur de ce qu'ils avaient sous la main. Ou alors que ces personnes voulaient de l'argent, beaucoup d'argent. Ils ne sont pas arrivés à monétiser ce trésor durant toutes ces années. Désolé, mais tout ça est faux. Leur propriétaire en connaissait la valeur inestimable et il n'avait aucune volonté d'en soutirer de l'argent. Mais alors, que s'est-il passé? Moins d'un an après l'apparition des feuillets, voici la véritable histoire et la raison pour laquelle les feuillets ne sont réapparus que 80 ans après leur disparition. Ces milliers de pages qui avait mystérieusement disparu en 1944, était entre les mains d'un résistant. Oui, d'un résistant. Aussi étrange que cela puisse paraître. Le 10 août 2022 sur Mediapart, voilà ce qu'a déclaré Jean-Pierre Thibaudat, notre journaliste de Libération. Ces manuscrits ont été conservés par la famille du résistant Yvon Moranda. Yvon Moranda, un résistant proche de Jean Moulin, l'un des héros de la résistance. Il a occupé rue Girardon, l'appartement réquisitionné de Céline, et y a vécu ensuite plusieurs années. C'est donc bien Yvon Moranda qui a récupéré les précieux feuillets à la Libération. Ceux-ci n'ont pas été volés, mais préservés par ce grand résistant, insiste le journaliste. Mais qui est Yvon Moranda? Cet homme fut un des 30 premiers volontaires à avoir rejoint le général de Gaulle à Londres, le 18 juin 1940. Parachuté en France en 1941 pour rejoindre Jean Moulin, il était chargé de rallier à De Gaulle les syndicats de la zone libre. Il repartira vers Londres en novembre 1942. Le 25 août 1944, il participe à la prise de l'hôtel Matignon à Paris. Et il habite l'appartement réquisitionné de Céline après sa fuite. Loin de piller l'appartement, Moranda a pris soin de le faire vider et d'entreposer les biens dans un garde-meuble. Yvon Moranda aurait même contacté Louis-Ferdinand Céline lors de son retour d'exil pour lui restituer l'ensemble de ses biens conservés dans le garde-meuble ainsi que les fameux papiers, à condition d'en payer la facture. Céline aurait refusé, parlant à propos de ses manuscrits de « pelure » et de « brouillon ». Les meubles seront vendus par la direction du garde-meuble pour solde de tout compte et les fameux documents conservés dans une malle où ils seront oubliés pendant des dizaines d'années. C'est Caroline Moranda, la fille d'Yvon Moranda décédée en 1972, qui les aurait découverts par hasard dans la cave de l'appartement familial de Neuilly au début des années 1980. Affolée par cette découverte, elle se serait confiée à Gilles, un ami proche, redoutant que la réapparition de ses manuscrits au domicile de son père jette l'opprobre sur la mémoire de celui-ci. C'est à ce moment que Jean-Pierre Thibaudat, ami de Gilles, est consulté. Caroline va lui confier les documents à deux conditions seulement. La première, c'est qu'il ne soit pas restitué de son vivant à Lucette, la veuve de Louis-Ferdinand Céline. Et la deuxième, c'est que le secret de leur origine ne soit pas dévoilé. « Monsieur Thibaudat, je suis Caroline, la fille d'Yvon Moranda. Je pense que vous savez pourquoi je vous contacte. Oui, oui, madame, votre nom ne m'est pas inconnu. Mon ami Gilles m'a parlé de votre père et des manuscrits de Louis-Ferdinand Céline qu'il détenait. Eh bien, je vous appelle car je lis souvent vos chroniques et je connais vos convictions. Gilles a dit que je pouvais vous faire confiance. Bah, je vous en remercie. C'est que je veux protéger la mémoire de mon père, voyez. Je ne voudrais pas qu'on le prenne pour un voleur. Non, non, ne vous inquiétez pas. Je préserverai son anonymat si vous le souhaitez. Et si ce n'était pas possible, je vous garantis que je me battrai pour sauver son honneur et expliquer comment les choses se sont passées. Eh bien, je vous en remercie. Jean-Pierre Thibaudat, ex-critique théâtral et ancien correspondant de Libération à Moscou, joue donc dans cette affaire un rôle central. Et c'est lui qui doit assumer maintenant ce lourd secret et les ennuis judiciaires éventuels. Car garder et conserver secrètement des œuvres littéraires qui ne vous appartiennent pas est passible de recel. Il doit donc garder ce secret jusqu'au décès de Lucette Destouches, la veuve de Louis-Ferdinand Céline, seule héritière de l'auteur. Pour la petite histoire, la fille de Louis-Ferdinand Céline, issue d'une union avec sa deuxième épouse, a refusé l'héritage à la mort de l'écrivain. Les dettes étaient trop importantes. Il reste donc une seule héritière. Lucette Destouches, rencontrée en 1935 et épousée en 1943. En mariage, en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Caroline Moranda considère que cette période trouble pour Louis-Ferdinand Céline, sa veuve l'a vécue avec lui. Elle est complice et sans doute partie prenante de ses relations de proximité avec les Allemands. Imaginer qu'elle puisse toucher des droits sur la vente de ses manuscrits est insupportable pour la fille d'un résistant. Je vous rappelle que Louis-Ferdinand Céline est mort en 1961. Caroline Moranda découvre les manuscrits dans les années 80 et les livre dans les années 2000 à Jean-Marc Thibaudat. Jamais Jean-Marc Thibaudat n'a pu penser qu'il devrait encore garder secret ses manuscrits aussi longtemps, car au moment où il reçoit les feuillets, la veuve de Céline fête ses 90 ans. En 2010, Lucette Destouches fête ses 100 ans. Il a fait une promesse et il doit la tenir. Il ne rendra pas public ses manuscrits avant le décès de la veuve de Louis-Ferdinand Céline. Et le temps passe. On imagine aisément pour Jean-Marc Thibaudat la difficulté d'attendre la publication d'un tel secret pendant autant d'années. Dans l'attente, Jean-Marc Thibaudat classe et tente de retranscrire les feuillets. La veuve de Louis-Ferdinand Céline décédera finalement fin 2019 à l'âge de 107 ans. On est loin de Jeanne Calment, mais c'est tout de même incroyable que cette œuvre que tout le monde recherchait ait dû attendre une longévité aussi exceptionnelle. C'est maintenant que les ennuis commencent et qu'une guerre entre avocats débute.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'incroyable histoire des manuscrits retrouvés d'un des plus grands auteurs du XXe siècle, Louis-Ferdinand Céline. 6000 feuillets de l'auteur réapparaissent à l'été 2021. Un homme, Jean-Marc Thibaudat, ancien journaliste du journal Libération, détenait les manuscrits depuis plus de 15 ans. Mais il avait l'obligation morale de n'en parler à personne. La fille du résistant, qui lui avait remis les 6000 feuillets, lui avait fait promettre de ne rendre publique l'existence des manuscrits qu'à la mort de la veuve de l'auteur, pour éviter qu'elle ne touche les droits. Lucette Destouches décède à l'âge de 107 ans, fin 2019. Jean-Marc Thibaudat peut enfin révéler à la France entière l'existence des manuscrits. Mais le journaliste de Libération sait qu'il a détenu et caché l'existence d'une œuvre capitale pendant près de 15 ans. Les ayants droit et la justice vont maintenant lui demander des comptes. Pendant 15 ans donc, Jean-Marc Thibaudat ne s'est pas limité à répertorier les feuillets et à déchiffrer les écrits de Céline. Non, il s'est renseigné également. Et il a vite compris que détenir des œuvres et en cacher l'existence pouvait le faire logiquement condamné pour recel. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a, avant la révélation des manuscrits, pris contact avec un avocat spécialisé en droit d'auteur qu'il a soutenu dans l'imbroglio judiciaire qui s'annonçait. On parle évidemment de gros sous ici. Imaginez, pour les ayants droit de l'œuvre de Céline, les royalties à côté desquelles ils sont passés en gardant secret ces manuscrits. Voyage au bout de la nuit, ce sont des centaines de milliers d'exemplaires vendus. Une nouvelle publication de Céline, 50 ans après sa mort, cela aurait été à nouveau des milliers d'exemplaires vendus et des droits astronomiques pour les héritiers de l'auteur. Il était donc évident que les ayants droit de Louis-Ferdinand Céline, dès la connaissance de l'existence de ces feuillets, allaient attaquer le détenteur pour recel et tout faire pour récupérer l'ensemble de l'œuvre et les droits associés. Mais qui sont les ayants droit de Céline? Eh bien, je vous l'ai dit, sa fille a renoncé à l'héritage en 1961. Et Lucette Destouches, sa dernière femme, est décédée avant l'apparition de ses manuscrits. Mais qui reste-t-il alors? Eh bien, ils sont deux. Et je vous confirme qu'aucun des deux n'a de lien de sang de près ou de loin avec Céline, sa femme ou autre membre de la famille de l'auteur. Et pour pimenter cette histoire, le premier est un avocat spécialiste de Céline. Cela promet une belle bataille judiciaire, une bataille judiciaire palpitante. Son nom, François Gibault, 80 ans, avocat et écrivain connu et reconnu du tout Paris. Proche de Lucette Destouches, il est l'exécuteur testamentaire de l'auteur. Le second, plutôt, la seconde, est Véronique Robert Chauvin. Durant les trois dernières décennies de Lucette Destouches, elle a été sa confidente. Psychologue de formation, leurs entrevues se sont donc doucement transformées en amitié. Et si le premier ayant droit, l'avocat, a écrit une biographie de Céline, Véronique, la psychologue, a écrit, elle, un livre sur ses échanges avec Lucette. Les voilà donc tous les deux avec notre journaliste de Libération concerné par l'affaire des manuscrits retrouvés de Céline. La justice rendra rapidement son verdict. La plainte pour recel est classée sans suite en septembre 2021, considérant qu'il n'y a ni vol ni recel, car aucune des personnes impliquées dans cette affaire n'a eu l'intention de vendre les manuscrits durant leur détention, et donc d'en retirer un quelconque profit. Difficile de condamner quelqu'un pour recel de vol s'il n'y a pas volonté de profit. Le verdict rendu, les ayants droit disposent maintenant de l'exploitation de la totalité des feuillets et ils ont la possibilité de les monnayer avec un éditeur. À la vue du scandale et de la bombe médiatique que cette découverte a suscité, on peut imaginer les montants que cela représente. Ce sera l'éditeur Gallimard qui se chargera de la publication. Aujourd'hui, les manuscrits retrouvés permettent de publier quatre œuvres. Guerre, Casse-pipe, Londres et la légende du roi Krogold. Le feuilleton de ce trésor retrouvé a passionné la presse, le monde. Mais songeons tout de même un instant à l'ironie de cette histoire. C'est un grand résistant de la Deuxième Guerre mondiale qui a sauvé les œuvres d'un écrivain antisémite. Et puis, c'est un journaliste qui va garder le secret pendant 15 longues années. Les ayants droit ont commencé à faire paraître chez Gallimard le premier manuscrit, Guerre, au mois de mai 2022. C'est un énorme succès littéraire, plus de 150 000 exemplaires vendus. Voilà pour l'affaire. Et pour ceux qui rêvaient de découvrir ou redécouvrir l'œuvre de Céline, voici la présentation de Gallimard pour le premier des quatre romans publiés, Guerre. Un roman dont l'action se situe dans les Flandres durant la Grande Guerre. Avec la transcription de ce manuscrit de premier jet, écrit quelques 2 ans après la parution de « Voyage au bout de la nuit », une pièce capitale de l'œuvre de l'écrivain est mise au jour. Car Céline, entre récits autobiographiques et œuvres d'imagination, il lève le voile sur l'expérience centrale de son existence. On y suit la convalescence du brigadier Ferdinand, depuis le moment où, gravement blessé, il reprend conscience sur le champ de bataille jusqu'à son départ pour Londres. À l'hôpital de Perdus-sur-la-Lys, objet de toutes les attentions d'une infirmière entreprenante, Ferdinand trompe la mort et s'affranchit du destin. Un second ouvrage, Londres, est attendu pour le 13 octobre. Bien plus long que Guerre, ce roman est le récit de son départ pour la capitale britannique en 1915. Enfin, en 2023, Gallimard compte faire paraître de nouvelles éditions du roman Casse-pipe, inachevé dans son édition connue jusque-là. Toute l'œuvre de Céline tombera dans le domaine public en 2031. J'ai été ravi de partager avec vous ce récit en collaboration avec Patrick Van der Heide et je vous dis à très bientôt pour un nouveau récit de l'heure H.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.